Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans les aventuriers du Pixel Perdu.
We're about to complete a great quest, the Holy Grail, Dr. Jones.
Oh, rats.
Cette semaine, chers auditeurs et chères auditrices, en route pour le 31e siècle. Nous survolons les décharges qui ont désormais recouvert le désert du Nouveau-Mexique, ainsi que les fonds marins étouffés sous les déchets non recyclables. Des consoles farcies de métaux rares, des PC Master Race imbibés de lithium, des cartouches engraissées au cuivre jonchent ces sinistres cimetières qui faisaient autrefois la fierté des Nvidia, Sony et autres Nintendo. Le jeu vidéo dans toute sa virtualité était-il finalement un danger pour la planète aussi grand que la très matérielle industrie automobile? Était-il une autre plaie du capitalisme dont il est issu? En 2018, n'est-il pas de notre devoir de nous interroger sur le coût environnemental de notre divertissement préféré?
Oui, c'est très intéressant de s'interroger sur le coût environnemental et marchand du jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, oui, c'est avant tout quelque chose qui a un coût marchand. Aujourd'hui, encore trop souvent, les jeux vidéo, les petits jeux riment avec petit prix et les gros titres qu'on appellera des triple A pour désigner les énormes jeux développés par les mastodontes de l'édition ou du développement, tels que les jeux type Skyrim, qui a été un énorme jeu à sa sortie, ou d'autres jeux, Horizon Zero Dawn, ou les derniers gros jeux quoi, qui sortent et qui sont énormes en termes de contenu, mais aussi en termes de place dans l'ordinateur, en termes de téléchargement, en termes d'achat, qui sont encore souvent vendus sous des formes plastiques en boîte, donc qui coûtent plus cher à la planète à produire en termes de production,
de matières premières
tout simplement. Et puis toujours la course au graphisme aussi, qui pousse à aller toujours chercher plus loin, des consoles toujours plus performantes et qui vont coûter toujours plus cher, même à nous et à la planète en fait. Et on voit le prix des jeux qui augmente. Hein. Même on achetait sur PS2 un jeu à 50 euros. Aujourd'hui, le prix quand même minimum d'un jeu AAA sur PS4, il est à 70 euros. Quoi. Donc ça augmente quand même progressivement. Et puis, ça a un coût pour la planète assez énorme. Il y a des études qui sortent un petit peu. Il y a un article notamment qui est assez intéressant de Marc Boissonneau sur le blog de recherche sur le jeu vidéo d'Esteban Green qui s'appelle Les Chroniques Vidéoludiques. Donc Esteban Green qui est un chercheur qui travaille un peu sur le jeu vidéo, Et du coup, lui, ce Marc Boissonneau qui a écrit l'article, il s'est interrogé sur le jeu Fez, donc il y a un petit jeu en fait qui est sorti il y a quelques années sur Steam maintenant, et il a en fait regardé l'impact énergétique du téléchargement de ces jeux-là. Il s'est intéressé au téléchargement du jeu qui ont ensuite été joués moins d'une heure, donc en fait les jeux qui ont été téléchargés pour rien, étant donné qu'après ils n'ont pas été joués. Donc il a calculé l'impact énergétique, donc avec des estimations évidemment, mais les estimations sont quand même probantes. Selon l'estimation basse, parce qu'il a fait une estimation basse et une estimation haute, donc déjà selon l'estimation basse seulement, toute l'énergie utilisée pour télécharger tous les exemplaires de Fez qui ont été joués moins d'une heure sur Steam peuvent alimenter en électricité 1193 foyers de 3 personnes durant une année complète. Ce qui est quand même colossal. Quoi.
Oui, ce qui est un village.
Oui, c'est toute une communauté qui peut être alimentée juste par l'ensemble des téléchargements d'un jeu qui n'aura pas été joué ensuite. Donc c'est un coût donc financier déjà pour les joueurs assez important. Et puis un coût pour la planète tout aussi important, voire plus, parce que ça a des répercussions ensuite sur toutes les questions énergétiques
et écologiques.
Et puis
ça, c'est que dans le cadre d'un seul jeu. Donc on peut imaginer que de nombreux jeux
ah oui,
sont téléchargés pour n'être finalement
Et puis, aussi, c'est toutes les soldes Steam aussi qui nous font acheter des tonnes de jeux parce qu'ils sont à bas prix. On les achète en se disant oh, bah j'y jouerai plus tard, même si j'y joue pas maintenant, il est à bas prix, donc autant que j'en profite. Et finalement, en fait, ils s'entassent dans les bibliothèques numériques et personne n'y touche jamais. Enfin, on n'y joue jamais. Moi, le premier, hein, j'ai déjà acheté des jeux comme ça sur Steam sans jamais y toucher.
Et ce coup, on n'en a pas nécessairement conscience a priori. C'est-à-dire que comme c'est virtuel, finalement, on se dit, voilà, il est là, il dérange personne sur mon ordinateur, il utilise de la mémoire, certes, mais on a toujours l'impression que la mémoire de notre ordinateur est infinie, et finalement, on ne s'en sert pas.
Ah bah, on oublie que le virtuel, c'est avant tout un gros ancrage dans le réel, au niveau de tous les serveurs. Enfin, pour gérer des plateformes comme ça d'échanges virtuels en ligne, il y a des serveurs qui coûtent énormément d'énergie, énormément d'énergie et de ressources à la planète pour pouvoir tourner en électricité assez énorme, comparable à toutes celles du Bitcoin d'ailleurs.
Tout à fait. Et du coup, en réponse à cette prise de conscience finalement du coût que peut comporter le fait de simplement jouer à un jeu vidéo, certains pensent à des alternatives de jeux qui seraient peut-être à rapprocher de certaines pensées de la décroissance.
Alors oui, c'est le cas d'ailleurs donc toujours de lui, d'Esteban Green, qui sur une des parties de son blog qui s'appelle Décroissance et jeux vidéo, parle en fait invente la notion de slow play. Donc pour lui, il y a un de ses articles qui s'appelle comme ça, la décroissance passera par le slow play. Pour lui, le slow play, donc il en propose une définition.
Slow play, nom masculin qui se dit d'une pratique casuale et non performative du jeu vidéo, qui formalise de manière observable une intention du joueur ou de la joueuse de limiter l'acte de jouer dans le temps, qui instaure des sessions courtes de jeu tout en prenant compte du format de l'expérience proposée et jouée. Certains jeux ne nécessitent pas plusieurs sessions pour être parcourus.
Oui, il y a des petits jeux, on peut les jouer très rapidement. Mais c'est vrai que cette segmentation du temps des gros jeux, dans la pensée d'Esteban Green, ça permet de faire durer déjà ces énormes jeux beaucoup plus longtemps. Donc de sortir de toute la logique de production des jeux vidéo qui en sortent tous les mois. Enfin, rien qu'au mois de janvier, il y a énormément de blockbusters qui sont sortis au mois de janvier dernier ou même en février. Enfin, tout le monde était là, mais il faut que j'achète ceci, il faut que j'achète celui-là. Et en fait, se cantonner à des sessions de jeu plus courtes, ça permet aussi une expérience plus longue sur un seul jeu, et donc un achat moins rapide et moins précipité de tous les jeux qui sortent en même temps.
Et puis, outre cette expérience de jeu qu'il entend rallonger dans le temps, il a aussi une conception de l'espace à l'intérieur du jeu qui permet d'en agrandir les frontières.
Disons que... En fait, il met ensemble l'espace et le temps dans cette pratique-là, parce que oui, il va penser l'espace du jeu comme un espace à découvrir, un espace où on va plus être dans une logique de progression et dans une logique d'accomplir des choses, mais vraiment dans une logique de la contemplation, de la méditation, de l'exploration, qui va passer par ce qu'il a appelé, dont il en a publié un exemple, une slow run, donc en fait une manière de jouer. Une manière de parcourir le jeu qui va utiliser les moyens les plus lents pour atteindre l'objectif du jeu. C'est-à-dire qu'il va mettre le plus de temps possible à atteindre la fin du jeu.
Oui, c'est toute une philosophie du détour, en fait. D'ailleurs,
oui,
il va beaucoup encenser la pratique de la marche, comme certains philosophes ont pu le faire dans la vie réelle, puisque pour lui, la marche, c'est une manière de faire attention, de prendre le temps de regarder et de remarquer, surtout de considérer le travail plastique qui se trouve derrière l'animation du personnage.
Oui, et du coup, d'ailleurs, le travail conceptuel ou l'intention qu'il y avait derrière le travail plastique. Il a fait une vidéo, d'ailleurs, sur ce sujet, sur la marche, dans le jeu vidéo, et où il montre qu'en fait, marcher dans le jeu vidéo, déjà, ça permet de découvrir l'espace d'une manière totalement différente, comme on vient de le dire, mais aussi de se focaliser sur le processus même de marche et la manière dont le personnage qu'on joue a été animé. Enfin, il fait des comparaisons entre plusieurs jeux, Zelda, le dernier Zelda Breath of the Wild, il parle aussi de Bloodborne, il parle aussi de Metal Gear Solid. Par exemple, quand il parle de Metal Gear Solid, je crois que c'est Survival, je suis plus sûr, mais un Metal Gear Solid où on se déplace dans un grand désert pendant de grands moments seul, du coup, on observe le déplacement du personnage et on se rend compte qu'en fait c'est une marche qui a été designée pour un personnage strictement militaire et un personnage qui est vraiment droit dans ses bottes et carré. Et du coup, dans ce point de vue-là, le fait d'aller moins vite dans le jeu et de sortir d'une logique de compétition ou de peut-être pas de compétition, mais de en tout cas de
mais d'une logique qui tendrait peut-être le joueur vers l'objectif à tout prix, vers cette espèce d'horizon indépassable.
L'objectif qui constitue la fin du jeu et donc qui voudrait dire d'en acheter un nouveau et de passer au suivant. Et bah, lui, du coup, il est vraiment dans cette idée-là qui est assez intéressante du je regarde jouer. Et je regarde, en regardant jouer et en regardant le jeu se dérouler, et bah, je me rends compte de plein de choses qui sont peut-être plus intéressantes que le fait de remplir les objectifs du jeu, en fait.
La chose que je regrette le plus dans les détails de ma vie, dont j'ai perdu la mémoire, est de n'avoir pas fait des journaux de mes voyages. Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans ceux que j'ai fait seul et à pied. Errer nonchalamment dans les bois et dans la campagne, prendre machinalement ça et là, tantôt une fleur, tantôt un rameau, était de quoi passer l'éternité sans pouvoir m'ennuyer.
Après, le slow play, c'est une pratique qui est très intéressante, mais qui n'est pas du tout la pratique dominante, on peut le constater. Enfin, les buts, les objectifs sont très clairs dans la pratique dominante du jeu vidéo, c'est-à-dire, comme on peut le voir sur les let's play en ligne, etc., ça va être de remplir les objectifs assez rapidement ou avec le plus de panache possible en accumulant des biens et de l'expérience. Mais on peut quand même se demander quelle est cette idéologie derrière le jeu vidéo qui détermine, d'une certaine manière, qui conditionne le joueur à entrer dans ces mécanismes-là.
Oui, c'est ça, parce que la responsabilité vis-à-vis du slow play, elle est intéressante, mais il faut se rendre compte qu'il y a des mécanismes derrière le jeu vidéo qui en font un objet capitaliste de base et qui en font, comme le disait Mathieu Triclot, la marchandise capitaliste par excellence. Parce que ce qui se passe avec le jeu vidéo, c'est qu'il y a des logiques qui se basent fortement sur le marketing et sur le fait de présenter le jeu comme une expérience de vie.
C'est une expérience de vie, mais en même temps, c'est pas non plus une expérience esthétique. C'est-à-dire qu'on va vendre le jeu vidéo comme une expérience de vie qui va pousser le joueur à se dépasser virtuellement, à écraser ses ennemis virtuellement et à être le meilleur, c'est-à-dire dans une expérience de la compétition, mais qui semble mettre de côté, paradoxalement, l'expérience esthétique pure. C'est ce qu'on a pu voir avec le film, justement, beau lapsus, j'allais dire le film, le jeu No Man's Sky, qui a été un four, alors qu'il avait été vendu notamment par des magazines non spécialisés comme les Inrecuptibles ou des choses comme ça, comme une espèce d'œuvre dans laquelle on pouvait se promener. Donc là, qui serait peut-être un précurseur de cette idée du slow play, mais qui n'a pas du tout marché.
Moi, je pense, d'après ce que j'ai compris du slow play, que No Man's Sky aurait pu totalement se plier à ce parcours-là de l'œuvre, parce que c'était un jeu qui mettait quelque part au cœur de son gameplay quelque chose de l'ordre du slow play, c'est-à-dire l'exploration. Il y a aucun objectif dans No Man's Sky et on va juste se balader de planète en planète générée de manière aléatoire et à chaque fois s'émerveiller la rétine sur des créations d'autres mondes. Et là, pour le coup, c'était totalement quelque chose de l'ordre du parcourir le jeu dans un aspect méditatif et vraiment plus dans un aspect de remplir des objectifs. Et bah, le jeu a été très mal reçu. Enfin, il y a plein de raisons, hein, c'est pas la seule raison, mais une des grosses raisons et une des grosses choses qu'on a dit contre lui, c'est qu'il proposait aucun objectif et que, que c'était vide d'intérêt parce qu'il n'y avait aucun objectif à remplir et que c'était juste de l'exploration, quoi.
Oui, alors que ce jeu, en fait, générait automatiquement des mondes de manière quasiment infinie et qui permettait de plonger le joueur dans une totale expérience esthétique de l'exploration, comme tu disais, de la promenade et de l'errance dans l'univers fictif.
Et puis sur la notion d'esthétique, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a une opposition, enfin il y a une différence de traitement de la notion d'esthétique. Si on est dans une pratique qui est beaucoup plus contemplative et méditative du jeu vidéo, l'esthétique en fait va être un support et un espace de projection du joueur dans l'espace du jeu pour se réfléchir lui-même et pour réfléchir au jeu aussi. Alors que si on est du côté de quelque chose de plus performatif, finalement l'aspect esthétique ou ce qu'on appellera plus les graphismes de ce côté-là, ça va être un argument de vente et une manière de dire que le jeu est magnifique. Enfin, combien de fois on a dit « ouais, il a des trop beaux graphismes, ce jeu ».
Mais ça va être une qualité qui va passer quasiment au second plan par rapport à l'espèce d'aventure qu'on nous vend, comme dirait Mathieu Triclos, cette espèce d'expérience de vie qui devient une fin en soi, une marchandise. L'expérience est vendue comme une marchandise et pas comme une œuvre, en fait.
Mon nom, c'est Jean-Claude Van Damme et je suis un mage. Le corps à corps pour moi maintenant, it's over. Maintenant, je lance des sorts. Si tu me cherches trop, je te transforme en chip. Un mouton. Parce qu'on est tous un peu moutons, tu sais. Je suis Jean-Claude Van Damme. Je suis un mage. Et toi, à quoi tu joues?
En fait, voilà, tout se passe comme si le jeu vidéo était comme sur une ligne de crête. C'est-à-dire que soit il tombe du côté de la compétition, de la concurrence et donc du marché, c'est-à-dire accumuler plus, avoir plus de points, remporter le plus d'expérience possible, soit il tombe du côté de l'art. Et quand on se situe du côté de l'art, ce qui insuffle du marché dans l'art, c'est le capitalisme. Mais l'art en soi, enfin l'œuvre d'art n'est pas vouée à la valeur d'échange, elle est d'abord une valeur d'usage. Et on peut avoir l'impression que la tendance dominante du jeu vidéo actuellement, en fait, avec tous ces tournois d'e-sport qui sont organisés, tout cet énorme engouement que suscite l'e-sport, ce serait plutôt justement d'aller du côté de la compétition et de la concurrence.
Oui, tout à fait. Et ça rejoint même toute l'idée d'un marketing basé sur une certaine agression ou sur quelque chose qui se rapporte à la victoire dans le jeu. Alors que l'objet va permettre la victoire quelque part. Si on prend la campagne marketing du dernier ordinateur Omen de chez HP, ils parlent d'agression, enfin ils disent écraser
agressif qui vous permettra d'écraser vos ennemis.
Oui, voilà, c'est
et
ça.
Alors qu'ils ne mettent pas du tout en avant la capacité de la carte graphique qui vous permettra de voir les graphismes justement en 4K, ni rien.
C'est-à-dire que directement l'ordinateur, enfin la machine de jeu est directement mise du côté de la victoire et pas du côté de la progression, pas du côté de la contemplation, pardon.
Oui, voilà, justement, en plus, Bolapsus aussi.
Oui,
l'ordinateur est mis du côté justement de cette progression, de cet objectif à remplir. Et finalement, cette expérience que vend le jeu vidéo, cette expérience, finalement, se rapproche d'un travail. Étrangement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le joueur doit remplir une quête, un objectif, et il doit justement payer de sa poche pour s'acheter des meilleurs équipements pour le remplir mieux, plus vite, plutôt que payer de sa poche pour acheter à la limite des équipements qui lui permettront de mieux profiter de l'expérience esthétique que lui offre le jeu.
Ah oui, l'aspect compétitif des jeux vidéo ou l'aspect tendre vers un objectif, il sera toujours dominé par cette logique capitaliste.
Oui, et puis comme nous le disions, on parlait tout à l'heure des tournois de e-sport, du coup, et tu disais qu'ils étaient organisés surtout par les firmes et que ça devient quasiment des tournois de démonstration industrielle où, en plus, les équipes sont sponsorisées et qui devient une affaire de gros sous, finalement.
Oui, ils comprennent uniquement déjà le Nvidia GTX Force Challenge ou des trucs organisés par Intel. Enfin, c'est que des constructeurs de jeux qui vont... qui vont mettre en avant leurs machines, qui vont mettre la marque de partout, et tout ça pour mettre en valeur, leur côté graphique, et surtout la performance de leur graphisme et de leur carte graphique au sein d'une compétition.
Enfin, la démonstration des jeux, la démonstration des équipes ne va pas du tout être pensée comme une grande rencontre, comme des rencontres cinématographiques, on pourrait imaginer, ou comme une exposition éphémère d'art ou quelque chose comme ça, mais pensée vraiment comme quelque chose, comme un sport... de la même manière que le foot aujourd'hui.
C'est ça, et c'est comme si les usages dominants, c'est-à-dire toujours aller vers une débauche de moyens, toujours aller vers une compétition, elles conditionnent le regard de la culture dominante sur le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sphère publique parle de plus en plus de l'e-sport et a un regard sur l'e-sport parce que c'est la pratique dominante de la compétition. Et si les usages changeaient pour un rapport à l'œuvre plutôt qu'à une compétition, peut-être que ça changerait le regard sur le jeu vidéo.
Eh bien, ce sera le mot de la fin pour ce 7e numéro des Aventuriers du Pixel Perdu.
Déjà.
On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle aventure et en attendant, jouez bien.